Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup à l'association de m'avoir invité pour ces rencontres. Je vais commencer en lisant un poème tout simple de Charlotte Delbault. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est un ailleurs, aux autres inimaginables, c'est difficile de revenir. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est un ailleurs qui n'est nulle part, c'est difficile de revenir. Tout est devenu étranger dans la maison pendant qu'on était dans l'ailleurs. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs où on a parlé avec la mort, c'est difficile de revenir et de reparler aux vivants. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand on revient de là-bas et qu'il faut réapprendre, c'est difficile de revenir. Quand on a regardé la mort à prunelles nues, c'est difficile de réapprendre à regarder les vivants aux prunelles opaques. C'est un poème qui est paru dans Mesure de nos jours, le dernier volume de Auschwitz et après. Mon travail d'anthropologue porte sur des situations de violence en Nouvelle-Calédonie et au Congo. Sur l'expérience de la guerre et sur les temporalités subjectives qu'elle ouvre. Il y a, comme vient de le rappeler Dominique, une forme irréductible d'empirisme qui contraint de manière essentielle les sciences sociales, le travail des sciences sociales. En anthropologie, cette prise de réel prend sa forme principale dans le dispositif ethnographique, dont les possibilités et les contraintes limitent ce que produit cette discipline. La présence de l'ethnographe dans les espaces de rencontre, de face à face, éventuellement d'interconnaissance qu'il parcourt, en définit les conditions de possibilité. Aller y voir, faire l'épreuve du visible, du sensible, de l'interaction et de l'interlocution, se laisser prendre à ce qui est à la fois épreuve et expérience subjective, sensible et intelligible. Voilà ce qui définit la condition, la politique et l'éthique de la relation ethnographique. J'aimerais évoquer ici en quoi la lecture des géorgiques, de l'acacia et du jardin des plantes me donne à penser et à éprouver vis-à-vis du matériau, de l'objet et de l'écriture de l'anthropologie. Je ne vais donc pas parler ou défendre une thèse sur l'œuvre de Claude Simon, ni sur le fait littéraire, mais plutôt sur ce que pourrait être une anthropologie de la violence, sur la manière de la concevoir et de l'écrire. Un anthropologue écrit des livres avec Claudine. Je dois dire que j'ai souvent des doutes sur la légitimité de mon travail de recherche. Cette réflexion à partir de Claude Simon a tendance à augmenter mon sens de sa vanité et je ne vais pas masquer les interrogations qui me traversent. Et pourtant je continue, il faut continuer. Et sans confondre, les sciences sociales ne sont pas, ne peuvent pas être la littérature. Donc, ce que j'entends ici par anthropologie, c'est pas un discours philosophique sur la nature de l'homme, en aucun cas, mais bien ce secteur disciplinaire des sciences sociales ou des sciences historiques, adossé à l'enquête ethnographique, à l'enquête de terrain. C'est-à-dire adossé à la production de matériaux issus du fait d'être là, donc pour moi d'être là, au Congo, en Nouvelle-Calédonie. Et des rencontres et des conversations de face à face, des entretiens que cette présence permet. C'est par là que j'ai commencé, un peu longuement, par l'entretien, par le matériau. On le sait, Claude Simon appréciait particulièrement les peintres qui affirment la matière, pour reprendre l'une de ses expressions. Je cite au sujet du matériau, « L'écrivain ou le peintre narre ou représente leur émotion. Et cette émotion est inséparable du matériau qu'ils travaillent et qui les travaille. » Cette deuxième partie de la phrase, cette émotion est inséparable du matériau qu'ils travaillent et qui les travaille, est soulignée dans le texte qui est dans les quatre conférences. J'aimerais donc passer un moment sur la texture même de l'anthropologie, sur le matériau ethnographique, sur le dispositif de sa production, et donc sur l'entretien. Sur la parole d'interlocuteur avec qui on partage au moins le temps de l'entretien, mais en général beaucoup plus, dans des relations qui se construisent dans la durée d'enquêtes répétées, de séjours répétés, de rencontres multipliées. Le dispositif d'enquête de terrain vise à susciter un ou de multiples récits de l'expérience, un ou de multiples rapports sur le monde, de la part d'une multitude d'interlocuteurs, parfois sous la forme de ce qu'on appelle techniquement un récit de vie, entre guillemets, mais pas nécessairement. La description d'une réunion foncière, d'un meeting politique, ou des travaux et des jours, c'est bien aussi. Rien ne va moins de soi, pourtant, qu'un tel rapport sur le monde, qu'un simple témoignage. Je cite Lacassien. Quand il essaya de raconter ces choses, il se rendit compte qu'il avait fabriqué, au lieu de l'informe, de l'invertébré, une relation d'événements, telle qu'un esprit normal, c'est-à-dire celui de quelqu'un qui a dormi dans un lit, s'est levé, lavé, habillé, nourri, pouvait la constituer après coup, à froid, conformément à un usage établi de sons et de signes convenus, c'est-à-dire suscitant des images à peu près nettes, ordonnées, distinctes les unes des autres, tandis qu'à la vérité, cela n'avait ni forme définie, ni nom, ni adjectif, ni sujet, ni complément, ni ponctuation, en tout cas pas de point, ni exacte temporalité, ni sens, ni consistance, sinon celle visqueuse, trouble, molle, indécise de ce qui lui parvenait à travers cette cloche de verre plus ou moins transparente sous laquelle il se trouvait enfermé. Il parle là de la scène de 1940 et l'espèce de cloche de verre, c'est des feuilles de papier paraffiné de cellophane qui se met sur la tête pour se protéger. Bref, une relation d'événements, rien n'est moins simple que cela. Ce doute sur la possibilité même d'un récit de l'expérience est démultiplié dans la scène bien connue qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises, la scène de l'interview dans le Jardin des Plantes, qui se déploie tout au long de ce livre en une quinzaine de séquences, plus ou moins longues, certaines font 10 lignes, d'autres jusqu'à 20 pages, je pense, à peu près déployées sur, peut-être pas dans la dernière partie, mais enfin sur une grande partie du texte. Et le journaliste fait partie de ces figures de l'adversité, si ce n'est de l'exécration de Claude Simon, mais je vais vous dire que pour moi c'est une expérience d'une extrême singularité que de la relire, parce que je m'y suis reconnu sans cesse dans la figure du journaliste. Donc, aux questions du journaliste appelant un récit autobiographique et chronologique classique sur sa participation à la guerre, S oppose l'affirmation d'une impossibilité. Les séquences sont entrecoupées de mille choses dans la construction complexe du Jardin des Plantes, mais de nombreux autres fils, mais notamment du fil du dialogue entre le juif soviétique et le poète Brodsky, qui lui est mis en parallèle. Donc, moi, comme ethnographe réalisant des entretiens, je me suis vu sans cesse dans la position du journaliste. Du juge soviétique, peut-être un petit peu moins, même si l'un de mes collègues américains a pu comparer l'ethnographe à un inquisiteur dans l'enquête de terre. Journaliste, donc, dont le dispositif est étonnamment proche du mien. Le texte de Claude Simon montre comment l'entretien ouvre le registre d'abord, avant tout, d'une violence et d'un malentendu. Et c'est pourtant mon matériau. Alors je vais lire quelques extraits, mis à la suite. La lecture que j'ai faite en prenant à la suite ces textes qui ne sont pas faits pour être lus à la suite est évidemment tout à fait malheureuse, mais je vais quand même continuer. Continuer, justement. Premier point, le dispositif matériel de l'enregistrement. C'est une condition pour moi, une condition pour avoir un matériau, voilà, la matérialité du travail. Il a dit non, continuez. C'est très intéressant. Vous permettez qu'on enregistre ? Sans attendre ma réponse, il avait déjà sorti de sa mallette un petit magnétophone qu'il a examiné avant de le poser entre nous sur le coin de la table. Et j'ai dit, je n'aime pas beaucoup cet instrument. Je n'ai pas le don de parole. C'est même sans doute Pourquoi j'écris, je... Il a dit on arrangera tout ça, c'est simplement comme aide-mémoire. Après, je... Par exemple, excusez-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas fermer la fenêtre parce que le bruit de la rue... Ah, moi, j'ai fait tout ça. Sortir en douce le magnétophone, enfin pas complètement en douce, mais sortir le magnétophone, dire c'est juste un aide-mémoire, vous en faites pas, devant l'air paniqué de mon interlocuteur, se demandant si j'allais tout de suite le vendre au gouverneur, etc. Bon. Voilà. Le vendre le micro, des choses comme ça, enfin, c'est des points auxquels on pense sans cesse. Un mot sur le don de parole. S n'a pas le don de parole, et pourtant, remarquons-le, c'est bien lui qui a accepté qu'entretien se fasse, qu'entretien il y est. Un autre passage. Quand le double reflet de la fenêtre sur les verres de ses lunettes ne me cachait pas son regard, je pouvais voir ses yeux qui continuaient à me dévisager, plutôt m'observer, de ce même air curieux, à la fois dubitatif, réservé. De temps à autre, il les détournait vers ce magnétophone posé sur la table entre nous. Un air curieux, dubitatif, réservé. C'est les règles de la méthode. Et puis en même temps, tout en posant la question, en écoutant la réponse, en prenant des notes, vérifier que le magnétophone enregistre et éventuellement mettre le casque, etc. C'est ça la matérialité de la suite. Il y en a plein des passages sur la matérialité de cet entretien. Je vais en lire un autre. Peut-être le journaliste se fatigue-t-il d'entendre S monologuer, ou peut-être s'inquiète-t-il de la longueur encore restante de la bande enregistreuse. Il jette un regard sur sa montre, divers cadrans où se succèdent les secondes, les minutes, les heures. Comme si le temps qui tourne sur lui-même et repasse aux mêmes endroits ne s'écoulait pas aux mêmes vitesses, aux mêmes intervalles, chaque fois différents. Il y a plein de choses à dire sur ce passage. Je relève juste ça. Moi, j'ai commencé comme ça, à vérifier la taille des cassettes, puis des mini-disques. Maintenant, les cartes mémoire font qu'on est assez tranquille de ce côté-là. En revanche, l'état des piles est un problème constant. Donc cette espèce de clivage de l'interrogateur est assez fort. Deuxième point sur ces extraits. Le premier est important sur la matérialité parce que nos archives, quand on fait des entretiens, ce sont nos cartes mémoire avec paroles enregistrées, et s'il y a eu du vent dans l'enregistrement tout le temps de l'entretien, et bien ça équivaut à rien. Deuxième point plus dans le contenu, la nature des questions, du forçage par les questions. Il a dit « Le thème de la guerre revient avec insistance chez vous. » Un peu plus loin, il a dit oui, qu'il savait, mais que ce qui l'intéressait, c'était ça, mon expérience personnelle. J'insiste pas sur le fait qu'à chacune de ces phrases, je me vois en train de, pas exactement de les dire comme ça, mais de les penser en tout cas, de les penser très fort. Un autre. Je ne doute pas de votre parole, mais tout de même, alors vous avez bien dû ressentir quelque chose comme de la peur. Il est impossible qu'un homme... Et S dit que non, c'était bien pire. Et le journaliste, pire. Et S dit qu'encore une fois, si on n'a pas vécu soi-même une chose du même genre, on ne peut pas s'en faire une idée. Encore un peu plus loin. Que non, S ne devait pas prendre ça pour une critique. Le journaliste ne se lui permettrait pas. Et que d'ailleurs, c'était très réussi. Mais que c'était encore plus intéressant d'entendre raconter sans ces enjolivements, que S ne prenne pas ce mot en mauvaise part, les faits bruts, simplement, dans leur matérialité. Parce que, mais S dit que rien n'est simple, le journaliste disant bien sûr, mais quand même. Je veux dire qu'entre une fiction et le récit, le compte-rendu objectif, neutre d'un événement, mais S l'interrompt de nouveau et dit, qu'il est impossible à qui que ce soit de raconter ou de décrire quoi que ce soit d'une façon objective. Et une dernière lecture dans cette série-là. Le journaliste disant qu'il ne parlait pas de roman, mais de témoignage. Et S dit que 6 témoins d'un événement en donneront de bonne foi 6 versions différentes. Le journaliste disant « Vaste sujet, mais ne nous égarons pas. » Et bien si, pourtant, égarons-nous un petit peu. Car désormais, et depuis longtemps, les sciences sociales se déploient dans la divergence des récits, des sources, et dans la conscience de l'absence de compte-rendu objectif des faits bruts. Je me permets de signaler que mon premier livre s'intitule « Histoire de Terre Kanak », histoire au pluriel, et qu'il thématisait précisément la divergence des versions de l'histoire d'une région de Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, Claude Simon pose une question fondamentale sur la manière dont le journaliste ici, l'ethnographe, pour ce qui me concerne, formule et se faisant impose les termes des questions, les mots du récit, quitte à susciter le malentendu et l'impossibilité de répondre de manière satisfaisante à de telles questions. Il faut rappeler que, quelle que soit sa technique, sa subtilité, son cynisme, et même quand il fait l'effort sur lui-même de percevoir les éléments de transfert et de contre-transfert qui se jouent dans la situation ethnographique, eh bien l'ethnographe n'est pas un psychanalyste, ne serait-ce que parce que c'est de lui que provient la demande d'entretien, de parole, qu'il y a bien là une violence fondamentale. Troisième registre sur l'entretien, toujours à partir de ces scènes du Jardin des Plantes. L'insatisfaction profonde de S par rapport aux questions, comme aux interprétations du questionneur, l'amène à conclure à l'impossibilité de la transmission et de la compréhension. On l'a déjà dit dans l'un des passages que j'ai lus. De nouveau, je me demandais ce qu'il pouvait bien comprendre avec ses lunettes de docteur, sa montre suisse, sa cravate de bon goût et sa chemise qui sortait de chez le blanchisseur. Parenthèse, c'est pour ça que j'ai pas mis de cravate et que j'ai enlevé mes lunettes. Mais il renvoie évidemment à la matérialité qu'il a évoquée dans le premier extrait que j'ai lu de l'Acacia, où il évoque l'état d'appréhension du monde de la personne qui n'a pas dormi, pas mangé, qui est menacée de mort, etc. Il y a le passage que Dominique Viard a lu avant-hier et qui effectivement résume la position radicale de S ou de Claude Simon. Il a dit « Oui, je comprends ». J'ai dit « Non, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez tout simplement pas, c'est absolument impossible ». Cet impossible renvoie dans le jeu d'intertextualité qui parcourt tous les livres, mais celui-là. À l'épigraphe de la troisième partie de Conrad, un autre spécialiste du Congo. Non, c'est impossible. Il est impossible de communiquer la sensation vivante d'aucune époque donnée de son existence. Ce qui fait sa vérité, son sens, sa subtile et pénétrante essence. C'est impossible. Nous vivons comme nous rêvons, seuls. Bien. Si on croit à cette impossibilité, à cette solitude, il n'y a plus de science sociale. Peut-être n'est-ce pas très grave. Mais disons-le tout net aussi. Plus généralement, il n'y a plus de lecture, de relation entre un auteur et des lecteurs. Je pense donc que Claude Simon ne croit pas aux mots qu'il écrit quand il les écrit. C'est pas grave, c'est pas l'objet. Quand il écrit « Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez tout simplement pas, c'est absolument impossible. » S'il le pensait, il n'aurait pas besoin d'écrire un livre. J'avais déjà vu ça dans la table ronde autrement, mais j'y insiste. Ça n'empêche rien au forçage, à la violence de l'entretien, au malentendu dans les mots qui sont utilisés. Ça n'empêche pas ça. Au forçage du questionneur, à l'impossibilité de lui répondre d'une manière satisfaisante, correspondent tout au long de ces séquences sur l'entretien l'échappée, la fuite constante de S vers la fenêtre, les oiseaux, l'affrontement des piles et des corneilles qui se jouent à ce moment-là pour l'installation de leur nid, la vie dans la rue voisine, dès que les pannes du dispositif d'enregistrement, en particulier, permettent au dialogue de s'interrompre. Je peux vous dire que parfois, j'aimerais bien me lever pour aller voir les oiseaux. C'est là pourtant que quelque chose survient. C'est là, dans l'entretien, que se fait sous sa forme la plus nue, l'affirmation du traumatisme, et l'affirmation du traumatisme comme foyer de l'œuvre de Claude Simon. Je vous cite ce passage très connu, mais qui mérite quand même d'être marqué dans son origine, dans l'entretien avec le journaliste. En fait, dit S au journaliste, en dépit des chocs ou des surprises ressenties avec plus ou moins d'émotion, comme la mort de sa mère, sa première masturbation par un compagnon de jeu, ou sa courte expédition à Barcelone au début de la guerre civile espagnole, le seul véritable traumatisme qu'il est conscient d'avoir subi, et à la suite duquel, sans aucun doute, son psychisme et son comportement général dans la vie se trouvèrent profondément modifiés, fut, comme il a essayé de le raconter, ce qu'il éprouva pendant l'heure durant laquelle il suivit ce colonel, vraisemblablement devenu fou, sur la route de Solre-le-Château à Aven, le 17 mai 1940, avec la certitude d'être tué dans la seconde qui allait suivre. Dans l'échange avec le journaliste, le « comme il a essayé de le raconter » renvoie à l'œuvre précédente de Claude Simon, et en particulier à la route de Flandre. Bref, que ce soit par ces séquences de l'entretien, mais aussi, je pense que Patrick en parlera, par ses usages de documents, Claude Simon affirme et montre l'impossibilité de restituer le passé, ou plutôt d'atteindre un savoir homogène à sa propre expérience, définitif, objectif, linéaire, continu. Les témoignages ne sont pas concordants. Il faut donc exposer la discordance. Et pourtant, quelque chose se passe là, dans l'entretien. Alors, je voulais dire, mais je vais aller un petit peu vite sur ce moment-là, que la réticence de Claude Simon est très comparable à celle d'autres personnes ayant vécu des situations à la fois nécessitant le récit et le rendant difficile. Et l'un des éléments que je voulais évoquer, c'est le refus de témoigner de Ruth Kluger, où elle s'oppose au projet de sciences sociales d'histoire orale, de collecte de témoignages, en disant, dans ces situations, on n'est pas témoin mais matière première, notre capacité à distinguer les faits des souvenirs est mise en cause, nous ne sommes plus que des documents vivants que d'autres doivent lire et commenter. Il apparaît alors une autre manière d'écouter, coïncidant parfaitement avec son contraire, ne pas vouloir écouter. Je ne m'attarde pas sur ce texte très beau, mais un tel constat, un tel doute, commande une exigence. Faire entrer l'autre, l'interlocuteur, comme auteur, comme sujet, comme subjectivation, et pas seulement comme matériel. Et donc, ne plus parler d'informateur, ni non plus de témoignage, dans les sciences sociales. Réciproquement, un tel constat commande, ouvre une seconde exigence pour l'ethnologue, celle d'assumer sa propre position d'auteur de ses propres usages de ses matériaux, d'auteur de montage, de collage, de critique. D'assumer donc sa position de travailleur, et non pas de traducteur de l'expérience des autres. Bref, il faut refuser de toutes parts l'idée de la transparence de l'expérience pour celui qui la vit, mais aussi la transparence de la parole circulant de celui qui parle à celui qui l'entend ou le mésentend. D'un autre côté, pour dire les choses très simplement, très platement, nous sommes, dans les sciences sociales, face au fait social massif que tout le monde n'est pas Claude Simon, ou Ruth Kruger, ou Charlotte Delbault, avec l'extraordinaire admiration que j'ai pour ces auteurs. L'expérience de la guerre, du survivant, du faillir mourir, qui est une expérience individuelle et singulière, mais aussi dans certains contextes, à certains moments, une expérience commune et parfois socialisée, ne trouve en général pas de traduction littéraire ou même simplement de traduction publique, partageable. Elle laisse donc entièrement ouverte la question de ce que Jacques Rancière appelle le partage du sensible. Comme cette expression résonne avec Claude Simon, le partage du sensible. C'est-à-dire l'idée que doivent être rappelés sur la scène du commun ceux et celles qui sont les moins visibles, celles et ceux qui ont été voués à la mort en particulier. Rancière a réfléchi à la question de la poétique des sciences sociales, bon, de l'histoire en particulier, mais j'ai élargi, en insistant sur le lien entre la construction de l'objet des sciences sociales et la littérature. C'est la littérature, écrit-il, comme régime moderne de l'art de la parole, qui a révoqué la différence entre des sujets nobles et des sujets vils, des vies actives, dignes d'être racontées, et des vies obscures, passives. Pour lui, c'est précisément cette révolution littéraire qui rend l'histoire possible comme science, en promouvant la catégorie du vécu et en dénonçant l'opposition entre sujets nobles et ignobles. Et évidemment, je pense que l'anthropologie relève exactement de la même analyse. J'essaie donc de réaliser une anthropologie du conflit, de la violence et de leur suite. Cela passe par une série de choix pour définir des lieux d'enquête, c'est-à-dire des situations sociales que j'étudie en allant sur place, en l'occurrence en Nouvelle-Calédonie, à Wailou, au Katanga, à Poueto. Ça commande aussi des angles d'attaque qui sont pour moi toujours dans des situations rurales autour de questions conflictuelles. Ces choix, dans la construction de l'objet, constitue une prise de position du côté, ou plutôt à partir, des gens ordinaires, des indignes, des minables, et de leurs paroles, peu ou pas entendues, ou de leur silence. Parce que qui a entendu parler de Wailou, de Poueto, ces lieux où j'emmène mes lecteurs éventuels et rares? Bref. Il s'agit de partir de sujets qui ne sont pas les plus visibles, qui comptent pour rien dans l'espace public et ne se trouvent pas toujours maîtres des déterminations les plus lourdes qui entraînent leur vie. Par exemple, à Poueto, il y a 2 ans, j'ai rencontré le pasteur Delphin Wembe, qui est réfugié en Zambie au début des années 2000, pendant la deuxième guerre du Congo, dont j'imagine que pas grand monde ne sait de ce qu'elle est. Bref, responsable à Poueto d'une association de défense des droits de l'homme et qui cherche, au sein de cette association, à démobiliser et à occuper les enfants soldats de la région de Poueto, membres d'un mouvement armé aux objectifs multiples et souvent assez opaques. Il se trouve, Delphin, en ce moment même, à l'hôpital général de Poueto, après s'être fait tirer dessus par des bandits miliciens qui ne souhaitent précisément pas que leurs jeunes recrues soient démobilisés. Et on peut prendre ça un peu au sérieux, parce que les miliciens en question ont déjà tué son adjoint il y a 3 mois. Alors Delphin n'est pas Claude Simon, mais peut-être quelque chose peut-il et doit-il circuler entre lui et nous. Peut-être quelque chose peut-il, doit-il circuler entre l'œuvre de Claude Simon et lui. Alors, insistons un petit peu sur l'objet. Je serai plus rapide sur les parties suivantes. Tichfen Samoyo, à partir de l'analyse d'un passage du Jardin des Plantes, qui concerne aussi l'entretien du journaliste avec S, a analysé la rupture temporelle opérée par l'expérience de la guerre, pensée précisément comme dépossession de soi et de la temporalité. Dans La Montre cassée, appelée aux éditions Verdier, que je recommande. Je cite juste deux phrases de Tichfen Samoyo. Il n'est jamais possible de récapituler l'événement, de retrouver son temps, dans le contexte de l'analyse de ce passage de Plexi. Et puis, je cite à nouveau, « La guerre et les procédures d'anéantissement qu'elle a mises en œuvre ne permettent plus de penser l'histoire comme un passé jalonné de repères, mais comme un monceau de débris, non ordonnable, aussi affolé que des archives en flammes. Face à un tel objet, l'expérience de la violence ou de la guerre, face à ce que je viens de lire de la manière dont Tichfen Samoyo en rencontre, les sciences sociales, dans la construction même de leur objet, sont confrontées à un choix assez radical, soit recomposer la cohérence, redonner des repères ou redonner du sens. C'est ce que fait le journaliste Pierre Bois, l'homme au magnétophone, dans l'article du Figaro intitulé « La déroute des Flandres » que Claude Simon retraduit dans le Jardin des Plantes. On peut au contraire suivre la leçon de Claude Simon, pour reprendre l'expression de Tichfen Samoyo, montrer les archives en flammes, les témoignages sans vrac, et exposer, en l'analysant, c'est pour moi la place des sciences sociales, leur discordance. Cela aussi peut constituer la production d'un savoir, et pas seulement d'une œuvre littéraire. Thématiquement, l'un des nœuds de l'œuvre de Simon est celui qui relie la guerre, la subjectivité et la temporalité. Il se trouve, pour une raison qui m'échappe un petit peu, que ce lien m'intéresse. Guerre, subjectivité, temporalité. Et que m'intéressent les processus sociaux de subjectivation, m'intéressent les rapports entre l'épreuve de la violence qui suspend quelque chose, par exemple le futur, ou par exemple la dignité qui reconfigure le passé, etc. Le lien entre l'épreuve de la violence et la temporalité, l'historicité, la manière dont se construisent ou non des horizons temporels. Cette question n'est pas seulement psychologique et individuelle, elle est aussi, dans certaines situations, la question même des rapports sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un après-guerre ? C'est pas juste une question individuelle. Ainsi, le projet empiriste visant à dévoiler sans imposer un sens est essentiel si on veut rendre compte de l'expérience de la violence dans les subjectivités qu'elle fracasse. Si on veut restituer quelque chose de, pour citer à nouveau Claude Simon, ce magma d'émotions, de sensations et de souvenirs qui me constitue en tant qu'être sensible. Rendre la perception confuse, multiple et simultanée du monde était le titre d'une interview de Claude Simon. Maurice Merleau-Ponty parlait quant à lui, au sujet de Claude Simon, de dévoilement du monde sans penser. Sans du tout renoncer au désir de savoir et à l'idée même d'une science sociale, je me demande, c'est une question véritablement ouverte, si cela ne constitue pas rendre la perception confuse, multiple et simultanée du monde, dévoiler le monde sans penser, un programme possible pour les sciences sociales. Claude Simon écrit du lieu, du réel, de la mort, d'une situation où la vie humaine ne compte pour rien, face à quoi un discours humaniste ou progressiste est impossible. Yves Ravet parlait hier, mais en fait je ne me souviens plus si c'était dans sa conférence ou dans une conversation d'après-coup, de nudité au sujet de cette expérience fondamentale de Claude Simon. De telle sorte que on peut dire que la position de Simon est à la fois totalement apolitique ou en deçà de la politique, ou totalement politique dans la mesure où elle s'inscrit, où elle s'inscrit au point de l'expérience de la destruction du sujet. Évidemment, il ne paraît pas excessif de mettre la position de Claude Simon en rapport avec le 17 mai 1940, comme si depuis ce moment-là, comme l'a dit Dominique Viard, il vivait en survivant. Et de poser un instant la question du traumatisme, ce terme, je ne crois pas, a été employé jusqu'à présent, puisque c'est une des thématiques explicites de l'entretien avec le journaliste dans le Jardin des Plantes. Je vous ai lu le passage. Rappelons l'exergue de la première partie de la Route des Flandres. Je croyais apprendre à vivre, j'apprenais à mourir. Léonard de Vinci. J'espère qu'on pourra en reparler. Alors, je lis un passage de l'Acacia. Alors, déjà, mes lectures précédentes étaient un peu brutales par rapport à l'écriture de Claude Simon, mais comme les phrases de l'Acacia font en général deux pages et demie, là, c'est encore plus sauvage. Mais enfin, c'est dans le chapitre 5, l'un des chapitres intitulé 17 mai 1940, où il évoque l'expérience centrale de la mort qui vient, pouvant entendre les balles le chercher, attendant le choc qui lui labourerait le dos, continuant pourtant à marcher. Cette expérience devient dans le travail syntaxique de la phrase dont d'autres que moi ont déjà parlé. Vidé de toute espèce d'émotion, c'est-à-dire, pas plus que la peur, n'éprouvant maintenant ni révolte, ni indignation, ni désespoir, parfaitement calme, s'en remettant pour réfléchir et décider à cette froide partie de lui-même capable de ruse et d'attention, non pas futilement occupé du pourquoi, mais du comment continuer à vivre. Et bien, en lisant ce petit fragment de phrase, je pense que c'est purement et simplement un art poétique de l'œuvre de Claude Simon, œuvre qui est, de mon point de vue de lecteur, et on peut tout à fait pas être d'accord avec ça, mais qui est vidé de toute espèce d'émotion, alors pas de sensation, mais vidé de toute espèce d'émotion, sans peur, sans révolte, sans indignation, sans désespoir, parfaitement calme. Ça vaudrait la peine de mettre en rapport cette perspective d'écriture avec les thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin que Patrick a récemment commenté après de nombreux autres commentateurs. Une thèse dans laquelle la conception d'une écriture antiprogressiste est mise en avant pour restituer l'expérience des opprimés, ceux qui sont voués à la mort et à la défaite. C'est le point quand il s'agit pour Benjamin de prendre l'histoire à rebrousse-poil. Il me semble que dans l'œuvre de Claude Simon, on est effectivement dans un monde marqué de très forte solitude, de très forte déliaison, où l'écriture s'installe dans un temps glacé de silence et de froid, dans une sensibilité hypermnésique, hypersensorielle, mais certainement pas sentimentale. Alors, dernier point, l'écriture. J'en reviens à l'horizon empiriste des sciences sociales. Le reportage sur le monde, le rapport sur le monde. J'en reviens à ma passion du réel. Comment faire une anthropologie de la violence? Comment faire avec de tels matériaux ces énoncés produits dans l'interaction et l'entretien, aussi douteux et illégitimes que soit ce dispositif? Comment faire avec un tel objet aussi inaccessible et intransmissible que le traumatisme, que l'événement, que la révolution? La réponse nous est transmise par Claude Simon. Elle vient d'un autre auteur. Il s'agit, comme l'a écrit Elie Faure dans une formule percutante, de danser sur le bord de l'abîme ou de le recouvrir de fleurs. Je cite les quatre conférences. J'ai le programme. Comment, au moyen de la description, mais de la composition, singulariser et délier. L'éloge de la description prend pour moi une résonance toute particulière dans les évolutions récentes de l'anthropologie, qui mettent de plus en plus en avant ce concept. Il n'est pas impossible aux sciences sociales de prendre une perspective qui ne soit ni causaliste, ni explicative, ni psychologique. Il n'est pas impossible de faire des sciences sociales en se dispensant d'établir des rapports de causalité et en mobilisant des rapports d'analogie et d'intertextualité. Il n'est pas impossible de faire, c'est-à-dire d'écrire, une anthropologie ou une histoire qui ne soit pas une épopée, qui ne soit pas une fable. Un certain nombre de chercheurs ont essayé de déployer cette exigence descriptive, que résume une belle formule de Wittgenstein. On ne peut ici que décrire, le mot est souligné dans le texte de Wittgenstein, et dire ainsi est la vie humaine. S'enfoncer dans la description de la singularité. S'enfoncer dans la description de la singularité, cela veut dire, comme le montre Claude Simon, que les sciences sociales ne doivent pas écrire de mauvais romans réalistes, naturalistes ou socialistes. Composer, donc. Je veux juste dire un mot parce que il faut que je conclue. Oui, oui, mais j'ai répondu. Comme lecteur, j'ai été saisi par l'impression de vertige temporel du temps des faits dans le montage des chapitres de l'Acacia ou dans l'entremêlement des voix et des typographies dans les géorgiques. Un mot à nouveau sur l'Acacia. Je suis fasciné simplement, enfin par beaucoup de choses dans ce texte, mais simplement par le titre des chapitres et leur succession. Je vais juste vous lire la suite. 1. 1919. 2. 17 mai 1940. Jusqu'ici, tout va bien. 3. 27 août 1914. 4. 17 mai 1940. 5. 1880 1914. 6. 27 août 1939. 7. 1982-1914. 8. 1939-1940. 9. 1914. 10. 1940. 11. 1910-1914. 1940, 3 points de suspension. 12. 1940. On pourrait commenter un petit peu, dire à quoi correspond 1919. La recherche de la sépulture du père sur les champs de bataille, le 17 mai 1940, on sait de quoi il s'agit. 27 août 1914, c'est la mort du père. 27 août 1939, c'est à la fois la mobilisation du fils et l'anniversaire de la mort du père, etc., etc. Mais, sans rentrer dans cette exégèse, quel chemin extraordinaire pour aller de la sépulture absente ou imaginaire du père à la sépulture absente, l'imaginaire du fils survivant et traumatisé. Cette construction temporelle se noue, comme cela a déjà été dit, dans la construction syntaxique de la phrase même. Et c'est là que ce chemin du chapitre 7, 1982-1914, prend son sens. Alors je cite à nouveau avec la même violence. Consiste à prendre 10 lignes dans une phrase qui en fait 80, un moment où 1982-1914 prend son sens, et en plus je vais accentuer quelques mots indépendamment du sens pour marquer une scansion temporelle, donc c'est vraiment n'importe quoi, mais... Il s'agit de l'annonce de la mort du père à la guerre. Et malgré cela, sur la plage ici. Et malgré cela, continuant à avancer, criant toujours, tandis que les baigneuses se rapprochaient, jusqu'à ce qu'elles puissent comprendre ce qu'elles criaient déjà sans doute depuis qu'elles avaient escaladé la dune, ce qu'elles n'avaient pas cessé de crier pendant tout le temps qu'elles avaient mis à traverser la plage avec ses déhanchements boiteuses, ses gestes de folle, de pantin désarticulé. La voix enrouée d'avoir crié, dominant maintenant le tapage indifférent du ressac, de l'écume, du vent, répétant pour la centième fois peut-être la nouvelle, avec à la fois quelque chose d'effrayé, d'excité et de funèbre. La phrase que 68 ans plus tard, celle qui jouait alors dans l'eau, semblait encore entendre. On dit en ville que le capitaine est dans le fracas des vagues, des ferlantes, des cris discordants des mouettes. Elles n'eurent pas besoin d'entendre le nom, elles savaient déjà, avaient déjà compris la suite, a été tuée. 68 ans plus tard, 1982-1914. Je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire, mais... Dans les quatre conférences, Claude Simon écrit « Ce qui va commander l'agencement forcément linéaire d'une série d'événements écrits, c'est la linéarité du texte même, ça c'est moi qui commence, ce qui va déterminer leur succession ou leur réapparition dans le temps du texte, ce ne sera plus la nécessité ou la prétention d'une démonstration exemplaire, mais comme en peinture, ce que Baudelaire appelait des correspondances. Dans mon métier, je ne peux pas me défaire de la nécessité ou de la prétention, si vous préférez, d'une démonstration. Elle n'est toutefois en rien tenue par l'exigence d'établir des liens de causalité. Personnellement, avec un certain nombre d'autres, je pense qu'on peut aisément substituer aux notions, à la notion de causalité celle d'air de famille, pour reprendre un concept wittgensteinien, mais qui a une résonance particulièrement simonienne, des ressemblances, des échos, des correspondances qui ne prennent pas la forme d'un concept. Chez Claude Simon, ça se déploie particulièrement dans l'acacia, dans le géorgique aussi, à partir d'un matériau familial. C'est ce que j'ai essayé de faire, mettre en texte des airs de famille dans des situations sociales, dans conjurer la guerre. Un mot sur la chronologie, enfin. J'ai écrit 2 livres d'anthropologie sur Wailou, 2 structures chronologiques. J'ajoute, c'est un peu embarrassant de se commenter soi-même, en fait, c'est quand même le travail que je connais le mieux dans le champ. J'ajoute que cette structure chronologique est malgré tout un petit peu complexe, plutôt que simplement linéaire, avec des formes de durée mêlée. Ça, c'est pas très nouveau dans les sciences sociales. J'ai choisi cette structure chronologique pour une inscription disciplinaire comme revendication d'une anthropologie qui s'historiciserait, qui tienne compte de l'inscription temporelle des expériences sociales, une sorte de manifeste en quelque sorte. Discret. Contre un culturalisme ou un structuralisme atemporel qui parlerait, je ne sais pas quoi, de la culture canard ou de la culture bouillée. Pourtant, on peut faire de la chronologie sans linéarité et sans causalité. Et je pense, je suis sûr même, qu'on peut aller encore plus loin, ce sera un peu plus tard, plus librement encore avec la chronologie. J'aimerais bien écrire un chapitre 1982-1914. Ce coup-ci, je conclue pour de vrai en lisant Georges Didier Huberman, comprendre, élever sa colère devant la violence du monde, élever symétriquement son empathie devant la souffrance du monde, à la hauteur d'une pensée, d'un travail. Mais d'un travail qui n'oublie, dans sa précision scrupuleuse, ni la colère, ni l'empathie. Comprendre, exercer 2 fois sa patience, une fois pour le pathos, la souffrance, le temps subi, une fois pour la forme, la connaissance, le temps reconstruit ou remonté. Pour cela, l'œuvre de Claude Simon pourrait, analogiquement peut-être, servir de poteau d'angle ou d'avertisseur d'incendie. Elle nous donne en tout cas à penser sur la manière de défaire les sciences sociales pour les rendre adéquates à l'objet qu'est la violence. Affirmer la matière. Restituer l'émotion inséparable du matériau qu'on travaille. Exposer la discordance. Montrer les correspondances, les airs de famille. Défaire le temps. Défaire la chronologie. Rendre la perception confuse, multiple et simultanée du monde. Dévoiler le monde sans penser. Exposer la singularité. Décrire. Écrire. Apprendre à mourir. Je vous remercie. Au revoir.